Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Girafe, ravi de vous retrouver, je suis Frédéric, le F de Girafe, et de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de mon émission intitulée Autour d'eux, pour une émission consacrée au thème cette fois-ci de l'action humanitaire. Cette émission se déroulera en deux temps, comme d'habitude, avec un premier volet et une nouvelle invitée, Anne-Sophie Porcher, ayant consacré près de 25 ans de sa carrière à cette mission de solidarité et de coopération humanitaire et internationale au sein d'organisations non gouvernementales, les ONG, du système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, et surtout les mouvements Croix et Croissant Rouge. Le principe aujourd'hui est donc de nous éclairer sur ce qu'est véritablement l'humanitaire dans ses dimensions d'action, de cadre juridique, de contraintes, de mise en œuvre. Et puis dans un deuxième volet, qui fera l'objet d'une deuxième émission, je donnerai la parole à des étudiants du Havre, en formation à l'EM Normandie, à l'initiative d'un très beau projet humanitaire qui mérite d'être mis en exergue et en valeur au Pérou. Je vous en parlerai plus tard. J'ai donc le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Sophie Porcher. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Frédéric, ravi d'être avec toi.
Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous et de nous parler à la fois de ton expérience, de tes missions et de ton parcours pour nous éclairer, donc, comme je le disais, sur ce qu'est l'humanitaire. Et je commencerai par une question très, très simple, comme je le fais à chaque fois avec mes invités. Je t'ai présenté très rapidement, mais est-ce que tu peux nous parler de manière un peu plus détaillée de ton parcours au sens professionnel, peut-être aussi personnel, lié à cette dimension de l'humanitaire, et puis aussi peut-être aussi au sens géographique, parce que ton parcours t'a amené à traverser le monde, si je puis dire, un petit peu partout pour mettre en place ces missions humanitaires. Donc, si voilà, tu peux nous éclairer sur cette première dimension, Anne-Sophie ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai commencé ce métier en 1993 pour une première mission en Arménie. Voilà, ça fait plus de 30 ans. Et j'étais volontaire à cette époque et je donnais des cours d'anglais à des étudiants anglophones. Et après, j'ai continué, j'ai enchaîné, surtout à partir de 2000. Parce qu'entre les deux, j'avais passé des diplômes pour renforcer mes capacités dans l'humanitaire, mais je suis partie dans différents pays d'Afrique avec des missions de 5 à 24 mois. Donc l'Afrique, c'est aussi bien l'Afrique de l'Est avec l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Je suis allée aussi au Rwanda, en Mauritanie, au Sud-Soudan avec le Darfour et la RCA, et les îles, l'Union des Comores, comme on dit. Et puis aussi, je suis allée au Kyrgyzstan et au Myanmar.
Oui, donc quand je dis que tu as traversé le monde, je me suis pas trompé. Tu as été un peu partout.
Hein. Tous les continents, exactement.
Une première précision, je t'en prie, par rapport à ce que tu évoquais, entre le début de ton engagement dans l'humanitaire en parlant de volontaire, et ensuite, après avoir consolidé ta connaissance à travers des formations, tu deviens une professionnelle. Est-ce que tu peux juste nous dire la différence entre être volontaire et être professionnel de l'humanitaire ?
Alors oui, tout à fait. Alors le volontariat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part, on a une indemnité, ça, c'est encore le cas. Hein. On a une indemnité, on n'a pas de salaire, c'est-à-dire que sur le terrain, on a une indemnité qui tombe sur notre compte, on est normalement nourri, logé. Logé surtout, nourri, il y a une indemnité pour effectivement s'acheter de la nourriture. Et puis ensuite, les billets d'avion sont pris en compte. Après, quand on revient, alors moi en tant que Française, je suis revenue en France, on n'a aucune d'aide du gouvernement parce qu'on n'a pas cotisé, pour être clair. Mmh. Après, lorsqu'on passe salarié, là, effectivement, on est salarié. Oui. Donc, détaché à l'étranger, comme des salariés français, mais détaché à l'étranger.
C'est donc vraiment une question de statut et ensuite d'avantages qui sont liés à ce statut entre volontaire et professionnel. Pour autant, le niveau de motivation et d'engagement reste le même, qu'on soit volontaire ou professionnel, finalement.
Tout à fait. La seule chose, c'est que la personne qui a un contrat, il doit respecter les horaires,
oui, évidemment,
les objectifs. Voilà. Un volontaire, y a cette notion d'être un peu plus libre par rapport à ça. Et encore, si on descend, enfin, si on va sur un autre niveau, il y a les bénévoles. Alors là, les bénévoles, c'est encore une façon de se consacrer, de s'engager pour l'action humanitaire, mais alors là, d'une façon sporadique sur un temps, voilà,
D'accord.
c'est quelques heures, voilà, c'est encore moins. Et là, il n'y a pas du tout de rémunération quand on est bénévole.
D'accord.
C'est un autre encore de l'action humanitaire.
Très bien. Merci pour ces précisions concernant ton parcours. Et une deuxième question qui est très liée à la première, finalement, me vient à l'esprit, c'est finalement comment, voilà, comment tu es allé vers ce monde de l'humanitaire et comment tu y es arrivé. Mais au départ, la première question, c'est voilà, c'est pourquoi? Pourquoi cet univers métier t'a attiré?
Et en fait, c'était lorsque j'étais petite, en 1976, j'ai vu à la télévision sur Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, les Boat People, en fait, la détresse des Boat People avec le génocide au Cambodge. Et ces femmes et ces enfants naufragés en mer de Chine, qui en plus étaient attaqués par des pirates, ça m'a beaucoup touchée. Et du haut de mes 8 ans, je m'étais dit que je trouvais ça profondément injuste et terrible, et donc je souhaitais. Je me disais que j'allais m'engager avec ces équipes. Il y avait déjà des équipes sur le terrain hein, qui intervenaient, des humanitaires. Et donc, je voulais faire ce métier-là. Voilà, je m'étais dit, bah, je ferai ça quand je serai grande. Voilà.
D'accord.
Et puis, au fur et à mesure, hein, j'ai passé des diplômes. Parce que c'est du personnel soignant, surtout qu'on me demandait à l'époque, quand j'avais après 18 ans. Et donc, j'ai pas fait médecine, c'est ce que je voulais faire, mais bon, pour des raisons, enfin, on m'a dissuadé au niveau de la famille, et donc ce qui fait que je me suis dit, bah, alors je vais apprendre ce que c'est que la géopolitique, parce que ça m'intéressait énormément, les relations internationales, parce que je me disais qu'il fallait comprendre ce qui se passait sur le terrain pour être plus à même de participer à alléger les souffrances des populations. Donc, ça me paraissait très important de savoir les relations au niveau régional, international, et de pouvoir être plus à même de répondre aux besoins,
Oui, d'avoir
tout en étant.
les clés de compréhension de certaines
Voilà.
situations. Et donc,
Voilà.
t'as pas lâché le cap depuis l'âge de 8 ans où tu as été marqué par ces images que tu avais vues. Écoute, merci pour ces précisions. Maintenant, si on s'intéresse véritablement donc au sujet de l'humanitaire, de son action, est-ce que l'on peut mettre une date, est-ce qu'on peut dater le début de l'action humanitaire selon toi, d'après ton expérience, ton point de vue, tes connaissances à travers tes études, mais aussi à travers ton parcours? Est-ce qu'on peut dater le début de l'action humanitaire et de l'humanitaire?
Alors, je pense que l'action humanitaire s'est concrétisée au 19e siècle, je dirais, parce qu'il y avait des œuvres type religieux, caritatif, mais aussi et surtout, je dirais, c'était l'œuvre de la Croix-Rouge. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu la bataille de Solferino qui opposait les armées franco-sardes à l'armée autrichienne en 1859. Et des personnes dont on doit se rappeler les noms, c'est-à-dire Louis Appia, qui était un médecin chirurgien de guerre allemand, qui travaillait à Genève, avec Henri Dunant, qui lui était banquier, se sont rencontrés, mais surtout parce que eux ont été à différents moments sur ces zones de conflit, et ils ont été profondément choqués par la situation des militaires, enfin des blessés de guerre. Et donc ils se sont dit qu'il fallait à tout prix améliorer le système. Porter assistance à ces personnes. Et c'est pour ça qu'ils se sont réunis, qu'il y a eu un premier appel aux dons dans le journal de Genève en 1863. Et en fait, c'est ce qui a permis de cette prise de conscience de dire, bon, là, il se passe des choses qui sont vraiment pas belles et qu'on doit aider ces personnes, même si voilà, elles combattent. Et donc, c'était vraiment le moment où. Ces deux personnes, plus trois autres personnes de Genève, ont décidé de se constituer en comité international fondateur de l'œuvre de la Croix-Rouge en février 1863.
D'accord, parce qu'il faut
Et
rappeler quand
ça,
même,
ça a été.
il faut rappeler quand même que la bataille de Solferino a été marquée dans l'histoire comme étant, voilà, même si ce terme est un peu choquant, mais une vraie boucherie Et que même si c'était une guerre, donc le métier de militaire qui savait vers quoi ils allaient se diriger en faisant la guerre, c'était pour autant un moment extrêmement terrible dans l'histoire de la guerre, cette bataille de Solferino.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu des différents... Il y a eu justement un jour à Solferino qu'Henri Dunant a écrit, grâce aux propos recueillis par d'Alain Appia, de Louis Appia, pardon. Et en fait, voilà, c'est décrivé vraiment des choses terribles. Et donc, ils ont décidé de faire ça et vraiment de témoigner et de mettre l'action parce qu'ils étaient indignés. Et grâce à ça, ils ont permis... Il y a eu un premier délégué du CICR qui a été envoyé pendant sur un champ de bataille entre les différentes guerres européennes, les empires européens. Et ce monsieur avait voilà, la symbolique qu'on retrouve en ce moment, c'est-à-dire un brassard blanc avec une croix rouge, d'accord, qui est le drapeau suisse inversé.
D'accord.
Voilà. Et depuis, voilà. Et c'est vrai que la croix rouge est la symbolique des soins médicaux, en fait.
Oui.
Encore plus. Donc voilà, et ça a été vraiment ça. Et puis ensuite, grâce à ça, il a pu y aller, il a pu attester de ce qui se passait, revenir. Et là, véritablement, il y a eu une première conférence internationale en mars 1863 qui a permis la signature par 12 États européens de la première convention de Genève en août 64, donc moins d'un an après. Et ça, c'était vraiment améliorer le sort des blessés sur les champs de bataille.
Août 1864, hein, on est bien d'accord.
Oui, c'est ça, août 1864, oui.
D'accord.
Première convention.
Donc on peut dater par rapport à ma question, après le constat de l'horreur de Solferino, on peut dater d'un premier élément de création de l'action humanitaire au moment de cette première convention de Genève.
C'est ça. Tout à fait, qui a scellé le droit international humanitaire.
D'accord, très bien. Et donc, tu viens d'utiliser le terme, parler d'action humanitaire, c'est forcément parler aussi de droit humanitaire et de ses principes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors oui, le droit humanitaire, c'est vraiment un ensemble de règles, de traités, qui cherchent à limiter les effets des conflits armés. En fait, il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Donc, l'objectif, c'est vraiment de préserver un peu d'humanité, parce que bon, dans les conflits armés, c'est quand même la guerre, hein, quand même. Donc, ça a quand même un bon pendant avec le droit de la guerre, mais quand même, dignité et sauver des vies en atténuant les souffrances. Ça, c'est vraiment son objectif. Il est basé sur 5 principes. Alors, il y a le principe d'humanité, de distinction, de précaution, de proportionnalité et d'interdiction des mots superflus et de souffrances inutiles.
Oui.
Donc c'est vraiment... c'est...
Le spectre est extrêmement large et la mission d'autant plus importante.
Tout à fait. Tout à fait. De prendre soin des personnes, même s'ils combattent. Quoi. Enfin, voilà,
c'est oui.
Dignité humaine, je pense. Sauvegarder la dignité humaine et limiter les souffrances.
Pour revenir sur l'un des principes, tu parles de distinction. La distinction, c'est, elle porte sur quoi ? C'est une distinction entre les militaires et les civils, par exemple ?
C'est la distinction entre les militaires au combat, les militaires blessés,
d'accord,
et tout ce qui est aussi personnel soignant.
D'accord.
Qui doit protéger, qui apporte l'assistance.
Ok,
les
d'accord.
Les moyens de transport, les ambulances, voilà, c'est la distinction. La notion de civil, ça sera après
ce sera plus
les
tard.
Autres conventions de Genève.
D'accord, ouais. Très bien.
Autres, oui.
Parfait.
Après, c'est vraiment dans
autres. Très bien, merci pour ces éclaircissements, Anne-Sophie. Et donc, une fois qu'on a émis des principes qui vont se consolider, se déployer, se développer au fur et à mesure du temps, on peut se poser la question de son application, l'application de ce droit, au fil du temps, au fil des années, jusqu'aux périodes les plus récentes. Comment ce droit s'applique-t-il finalement face à des situations extrêmement complexes ? Et donc, quels sont les obstacles, les défis pour l'utiliser, ce droit humanitaire, de manière, de manière la plus efficace possible ? Et comment ça s'applique dans les différentes situations que l'on peut imaginer ?
Eh bien, le droit international humanitaire repose véritablement sur les quatre conventions de Genève de 1949 et deux protocoles additionnels de 1977, où justement la notion civile a été au fil du temps, entre 1949 et 1977, instaurée.
Donc là, juste pour bien resituer, excuse-moi Anne-Sophie, mais pour bien situer les choses, là, 49, on est en 1949, donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est ça?
Après la création des Nations Unies, avec la Charte des droits de l'homme et avec ces quatre principes. Et puis voilà, là, après, on a eu ces conventions de Genève qu'il faut rappeler quand même, elles sont dépositaires au niveau du gouvernement suisse, ça n'est pas au niveau des Nations Unies.
Et ouais, c'est très intéressant, ça.
Le gardien de l'application.
Intéressant de le savoir. Oui, parce qu'on peut, dans l'imaginaire collectif, se dire ça vient de Genève, donc c'est la dimension multilatérale de l'ancienne SDN, devenue Nations Unies, l'ancienne Société des Nations devenue les Nations Unies, mais pas du tout. Ça émane de l'État suisse.
C'est tout à fait ça. Avec la première convention, avec la Croix-Rouge, et puis voilà, ça a progressé, et donc vraiment, ça s'est passé en Suisse et c'est resté en Suisse. Et il faut savoir que la mise en œuvre des conventions de Genève relève de la responsabilité des États qui se sont engagés et qui les ont ratifiées. Donc, voilà, à l'intérieur de leur propre droit, et qui s'engagent à respecter et faire respecter ces conventions en toutes circonstances. Donc c'est vraiment responsabiliser les États à mettre en œuvre ces conventions.
Vas-y, je t'en prie, termine.
En fait, ce DIH aussi, pour pouvoir justement, ça relève de la responsabilité, mais toutes les organisations humanitaires, avec les Nations Unies, tous les acteurs, se doivent de le porter. Et en fait, ça passe par la diplomatie humanitaire.
D'accord.
Et c'est là où ça pose parfois des tensions, parce que entre diplomatie et diplomatie humanitaire, il y a quand même deux notions qui peuvent s'opposer parfois. Entre la négociation de pays pragmatiques avec des compromis et trouver les intérêts entre les deux. Et puis après, il y a la notion de tout ce qui est idéaux et principes universels qui ne doivent pas être interceptés dans les intérêts d'acteurs politiques spécifiques, ce qui fait que ça peut faire émerger des tensions et de mettre les organisations militaires dans des positions difficiles en termes de neutralité, de ne pas... Voilà,
oui, non, c'est un équilibre permanent à trouver et parfois se trouver entre, comme on dit vulgairement, le marteau et l'enclume, sachant qu'effectivement les États préservent d'abord et avant tout leurs propres intérêts, et comme le disait le général de Gaulle, les États sont des monstres froids, hein, donc en pensant d'abord à leurs propres intérêts. Merci pour tous ces éléments de réponse, Anne-Sophie. Je te propose qu'on fasse un premier stop musical, si je puis dire, et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer notre conversation passionnante. Merci à toi et à tout de suite.
See? sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Secret light of the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Bien, nous nous retrouvons après cette pause musicale avec, je le rappelle, Anne-Sophie Porcher, spécialiste de l'humanitaire, le sujet de notre émission de ce jour. Anne-Sophie, merci d'être restée avec nous. Et on enchaîne sur une nouvelle question, à laquelle tu as déjà plus ou moins répondu d'ailleurs sur la première partie de l'émission. Mais finalement, voilà, la question est savoir si l'action a mené au droit humanitaire. Ou est-ce que c'est l'inverse ?
De mon point de vue, c'est l'action qui a mené au droit.
C'est ça, c'est très clair. Comme
avant, oui. C'est vraiment la bataille de Solferino, des personnes, donc c'est une initiative individuelle, une prise de conscience d'arrêter cette souffrance humaine, même si on fait la guerre, et donc voilà, protéger les blessés. Donc c'est vraiment né de là. Et puis ensuite, après, effectivement, les actions... Alors, il y a eu ces cadres juridiques avec les conventions de Genève. Donc voilà, c'est pour ça que l'action a mené au droit international humanitaire.
C'est ça.
Et en plus, après, il s'est enrichi grâce à différents types d'interventions, parce que le type d'action humanitaire a différentes formes d'intervention, comme on dit, aussi bien en zone de conflit, ce qui a initié ce droit, mais aussi ensuite et surtout pour tout ce qui est catastrophes naturelles, changement climatique qui pousse des populations à migrer en interne d'un pays ou vers des zones internationales.
Le spectre de l'action humanitaire s'est élargi, s'est complexifié mécaniquement avec des situations qui se sont elles-mêmes complexifiées, à la fois dans des situations de guerre et avec des nouvelles formes de guerre, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, mais aussi, comme tu le dis, avec le dérèglement climatique, de plus en plus de situations de catastrophes naturelles à gérer malheureusement.
Tout à fait. Et il y avait un point d'ancrage qui est important, c'est que ce droit a évolué, mais il y a les droits, hein, les cadres juridiques, et puis après, il y a le concret sur le terrain. Mmh. Et il est vrai qu'il y a eu un événement avec la guerre du Biafra de 67 de 1967 pardon, à 1970. Il y a trois humanitaires hein, qui étaient à l'époque CICR, qui travaillaient pour le CICR, qui se sont...
CICR pour nos auditeurs,
de ne pas, pas pouvoir porter assistance aux personnes qu'ils souhaitaient.
Pour nos auditeurs, le CICR, juste pour préciser, Comité international de la Croix-Rouge.
Voilà, celui qui est le garant et le protecteur des conventions de Genève, justement. Et si vous voulez, c'est comme ça que c'est parti en disant, mais ok, mais si le pays ne veut pas, il y a quand même des gens qui souffrent, comment est-ce qu'on peut aller porter assistance à ces personnes en souffrance? Et c'est là où la notion de droit d'ingérence, droit devoir d'ingérence est apparu par rapport à ces personnes, particulièrement M. Kouchner, M. Betati et M. Revel. Et là, c'est pas un droit en tant que tel, c'est un principe moral de réduire la souffrance, même si l'État, qui est quand même souverain, et là, voilà, ça pose question sur la souveraineté de l'État.
Ce sont deux notions qui se heurtent, quoi, finalement.
Se heurte énormément. Et c'est vrai parce que toute action humanitaire, pour qu'il y ait une intervention humanitaire dans l'action, c'est il faut un appel à l'action humanitaire de l'État affecté en conflit ou affecté par une catastrophe naturelle. Mmh. On ne peut pas débarquer comme ça dans un pays sans...
Néanmoins, ça
s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Et il y a eu des résolutions qui ont été adoptées par l'ONU en 88 et en 90 pour justement faciliter l'accès des acteurs humanitaires sur un terrain, mais sans violer les lois du pays concerné. C'est vraiment un seul but d'aider des victimes de catastrophes naturelles ou de situations d'urgence causées par des conflits internes et internationaux. Et voilà. Donc ça, il y a des améliorations, mais c'est toujours compliqué de garder la neutralité en tant qu'acteur humanitaire et de voir ce qui se passe et de pas se mettre à dos l'État qui, lui, a son mot à dire. Les Nations Unies sont garantes de ça. Il n'y a que les Nations Unies. Hein, dans les textes, il n'y a que qui ont ils ont le monopole, comme on dit, de l'ingérence légale. C'est-à-dire que les Nations Unies, eux, peuvent, de par leur statut et de par la Charte des Nations Unies, intervenir dans un État pour justement pour le maintien de la paix. Parce que c'est un des principes de la paix et sauver des vies.
Et être le garant des principes fondamentaux du droit international, tout court, du droit international public, que de respecter la souveraineté des États. Si on enchaîne un petit peu dans les détails, si je peux dire, de l'action humanitaire, quelles sont les caractéristiques d'une action humanitaire pour devenir véritablement une aide humanitaire?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans une intervention humanitaire, une action humanitaire. Il y a tout d'abord les types d'interventions face au contexte qui nous fait face. C'est-à-dire, soit vous intervenez dans l'urgence, donc que ce soit conflit ou catastrophe humanitaire. Donc là, c'est vraiment pour répondre aux besoins essentiels pour sauver des vies. Vraiment, c'est des situations d'urgence, donc on y va. Après, il y a un deuxième niveau qui est à moyen terme, qui s'appelle le post-urgence, recouvrement, qui n'est pas très joli en français, mais en anglais, c'est recovery. Et là, c'est vraiment une action d'un appui organisationnel pour vraiment faire de la réhabilitation, du WASH, ce qu'on appelle, avant c'était du WATSAM, et puis maintenant ça s'appelle du WASH, c'est-à-dire water, sanitation and hygiene, le WAV avec le WAT.
D'accord.
Donc ça c'était le WATSAM en France avant, et puis il y a tout ce qui est aussi le tracing des personnes disparues, donc ça c'est le mandat du CICR de retrouver les personnes qui ont disparu, que ce soit dans un tremblement de terre ou dans une inondation, et dans des conflits. Et puis aussi, voilà. Donc, et après, il y a le long terme, un petit peu plus loin, qui fait que là, c'est du développement, ce qu'on appelle vraiment le développement, qui amène à un renforcement des capacités à travers la formation, la construction, la distribution de consommables, que ce soit des médicaments pour juste ou pas, pour pouvoir aider les populations, mais d'une façon à plus long terme. Et c'est vraiment Là, il faut s'en tenir aussi à, une, à un partenariat normalement avec l'État ou la zone géographique où on est affecté, où sont les interventions.
C'est très intéressant. C'est passionnant ce que tu dis parce que c'est, on se rend compte de la diversité et de la complexité effectivement d'une action qui devient une aide humanitaire et toutes les dimensions qu'elle doit revêtir pour finalement voilà, atteindre ses objectifs.
Voilà.
Exactement.
Et ces interventions, eh ben, elles sont mises en place par des acteurs. Et là aussi, il y a différents types d'acteurs suivant les mandats qu'ils ont et les domaines d'intervention. C'est-à-dire, si vous prenez une ONG, Médecins Sans Frontières, elle, c'est une ONG, déjà, et elle intervient dans le médical, dans l'urgence, mais aussi dans le post-urgence. Et son mandat a évolué, ce que j'en sais, sur le renforcement des capacités et donc plus... Enfin, ils peuvent faire du développement, mais c'est quand même leur cœur de travail, c'est leur cœur de
métier,
de c'est vraiment l'urgence. Comme, voilà, Médecins du Monde, c'est plus sur le renforcement. Enfin, voilà, donc ça, c'est les ONG. Vous avez aussi tout ce qui est agence des Nations Unies, qui là sont en appui au gouvernement d'État à travers des agences, comme l'UNICEF, comme le Programme Alimentaire Mondial, l'OMS, enfin voilà. Et puis après, vous avez le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui là, à trois piliers, qui est le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui lui est garant donc, des conventions de Genève et qui intervient principalement au niveau des conflits, des prises d'otages. Voilà, voilà, ça c'est vraiment leur corps de métier. Après, vous avez l'autre pilier qui s'appelle la Fédération internationale des sociétés de croissants et de croissants rouges, et de Croix-Rouge, pardon, qui lui aussi, qui elle a un mandat à la Fédération internationale dont le siège aussi est à Genève, qui est plus au niveau des catastrophes naturelles et du renforcement des capacités des sociétés nationales. Parce qu'elle fédère, c'est le cas de lire la fédération, elle fédère toutes les sociétés nationales dans tous les pays du monde qui sont soit des Croix-Rouges, soit des Croissants-Rouges.
Donc on comprend qu'il y a des acteurs avec des missions finalement définies et des actions qui rentrent dans un champ qui leur correspond. Tout le monde ne fait pas tout, quoi, en gros.
Tout le monde ne fait pas tout. Il y a des domaines différents. Et il y a aussi, ce qu'on doit aussi ajouter, c'est qu'il y a aussi des pays. Il y a des agences gouvernementales qui, pour le développement international et la solidarité, donnent des financements. Donnent des financements pour faire les actions. Ce sont des bailleurs, donateurs, et parce qu'ils n'interviennent pas directement, mais ils financent des actions à travers les acteurs pour pouvoir les mettre en place sous forme de financement. Donc voilà, ils interviennent comme ça, mais il y a aussi... les évaluations, des expertises. Donc, nous, enfin, par rapport à la France, vous avez l'Agence française de développement et ses filiales.
L'AFD, oui.
Vous avez USAID pour les États-Unis, vous avez DFID pour le Royaume-Uni. Enfin, voilà. Ça, c'est des agences nationales de coopération et qui mettent en place le développement et la coopération internationale à travers des acteurs, les Nations Unies, le mouvement Croix-Rouge, il finance voilà, des actions pour que les acteurs puissent mettre en place, en pratique, mettre en œuvre leurs projets à différents niveaux, que ce soit la santé publique, l'alimentation, les camps des réfugiés, l'éducation et le maintien de la paix.
Et le maintien de la paix. Merci pour tous ces éléments, Anne-Sophie. On a, grâce à toi, donc, le contexte historique, la chronologie de la naissance de l'action humanitaire, de sa consolidation juridique, de ses caractéristiques, de ses acteurs. Avec tous ces éléments, et positionnés là où nous sommes dans cette chronologie, c'est-à-dire en 2023, avec le recul et l'antériorité historique que l'on vient d'évoquer grâce à toi, est-ce qu'on peut faire un bilan aujourd'hui de l'action humanitaire et de son efficacité ?
Alors, moi je pense que c'est de mieux en mieux. Ce domaine me passionne et je pense qu'il s'améliore de plus en plus, et encore une fois, à différents niveaux d'analyse. Pour l'avoir pratiqué, l'avoir vu sur place, donc ça fait 30 ans maintenant, je suis convaincue qu'il y a une meilleure coordination entre les acteurs. Il faut savoir qu'il y a eu un élément aussi fondamental au niveau de la coordination des acteurs humanitaires, c'était le tremblement de terre du Pakistan, en 2005. Et on s'est rendu compte que la coordination entre les acteurs, qui fait quoi, où et comment, c'était un petit peu le bazar. Enfin, voilà, il fallait un peu coordonner ça. Et donc, c'est là où on parle, enfin, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu parler, de l'approche cluster, l'approche grappe, en français, moins joli. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment le nerf de la guerre, entre guillemets, pour coordonner les différents acteurs suivant les différentes thématiques sur lesquelles ils sont les meilleurs et qui peuvent intervenir, avec, en mettant un leadership au niveau des agences des Nations Unies. Par exemple, moi, j'ai été Nutrition Cluster Coordinator, et ça, la nutrition, c'était portée par l'UNICEF. L'UNICEF avait le leadership de cette coordination pour tous les acteurs qui agissaient contre la malnutrition et donc pour la nutrition. Et donc, vous avez un coordinateur et un co-coordinateur. Et puis ensuite, après, il y a tous les acteurs nationaux, internationaux. Et si vous voulez, ces différents clusters suivant la thématique choisie et coordonnés par un autre organisme qui est OCHA. Et donc ça, c'est l'Office en français. En anglais, OCHA, c'est Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Donc c'est ce mécanisme-là aussi qui coordonne ces différents clusters pour améliorer l'aide, pour être plus efficace, efficient, par rapport aux moyens qu'on met en place, est-ce qu'on atteint nos résultats ? C'est une notion un peu plus fine de l'action humanitaire. Et aussi, d'être en mesure de savoir qui fait quoi ou comment. Ce qu'on appelait les 3, les 4, moi j'ai rajouté 2, pour avoir été cluster, j'ai rajouté 2, hein, 2W. C'était vraiment ça. Et il y a le Inter-Agency Standing Committee, le IASC, qui, lui, est garant de la mise en place de cette approche. Donc là, 2005, ça fait 18 ans. Et c'est de mieux en mieux. C'est de plus en plus efficace. Il y a moins cet aspect d'indépendance, certes, des ONG, mais en même temps, plus on est ensemble, plus on mutualise les forces sur les thématiques.
Donc ta vision des choses aujourd'hui est plutôt optimiste dans le regard, sur le regard que tu portes de l'action humanitaire et de l'aide que ces actions apportent. Donc on est plutôt sur une tendance vertueuse.
Voilà. Okay. Il y a la coordination, il y a l'amélioration des interventions, on fait plus attention aux communautés, on leur demande leur avis, on est meilleur à ce niveau-là. Les mécanismes de financement, on mutualise. Maintenant, les bailleurs mutualisent l'argent. C'est plus, on ne saupoudre pas les financements suivant l'acteur. C'est, allez, on fait sur l'action santé publique. Qui veut participer à ça ? Et écrivez-moi un propal, un proposal. Et puis, voilà.
D'accord.
C'est vraiment plus dans la mutualisation des forces. Et comme ça, il y a une transparence sur ce qui se fait. Et aussi, ce qu'on appelle l'accountabilité, c'est rendre des comptes.
Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser, effectivement, sur cet aspect, pour terminer sur cette question, il y a une traçabilité sur les flux financiers. D'accord.
Oui, les acteurs, on a été, c'est plus, voilà, il y a vraiment des gestionnaires de financement au niveau du siège de toutes les organisations. On doit faire des rapports financiers sur tout l'argent donné par le donateur, qu'il soit institutionnel, privé. C'est important. C'est quand les personnes donnent, et après, il y a des rapports. Et ça, c'est de plus en plus important. Alors, cette notion d'accountabilité, elle est au niveau des donateurs, des bailleurs. Et là, depuis un certain nombre d'années, et ça, c'est peut-être un point d'amélioration qu'il faudrait être plus, c'est de l'accountabilité par rapport aux populations. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette aide ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que ça répond à leurs besoins, à leurs demandes exprimées ? Et puis, il ne faut vraiment pas oublier le savoir-faire local. Souvent, on fait du overlapping, comme on dit, on rajoute des choses alors qu'il y a un savoir-faire local.
Il y a ce qu'il faut sur place.
Voilà, il y a des ressources qui peuvent être utilisées. Et ça, c'est encore des points d'amélioration. Mais ça va. Mais voilà, moi, les points d'amélioration, c'est vraiment être plus proche des populations. Véritablement, le do not harm en anglais. Ne pas causer de préjudice. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Penser aux populations, vraiment les écouter, mais sans pour autant tout leur donner, parce que voilà, après, il faut aussi que nous, avec notre expertise, on analyse les besoins et prendre en compte le savoir-faire local. Okay. C'est excessivement pour qu'il y ait une continuité, une pérennité dans les actions. La cerise sur le gâteau, c'est que les humanitaires s'en aillent.
Oui, bien sûr. Une action, finalement, une action réussie, c'est quand les humanitaires ne sont plus là.
C'est quand on s'en va, voilà, et qu'on laisse les populations s'approprier le projet, parce qu'on les a impliqués depuis le début, on les a écoutés, et après, voilà, ils ont adhéré, qu'on va bien expliquer et après on s'en va.
Est-ce que Anne-Sophie, tu peux très rapidement nous citer un ou deux exemples d'expériences significatives que tu as menées? Tu as parlé de ton rôle tout à l'heure dans le cadre d'une action. Est-ce que tu peux nous décrire une ou deux expériences significatives, je dirais, dans le détail presque quotidien, une journée type sur une action humanitaire que tu as menée?
Alors, parmi celles que j'ai pu mener...
Il y en a beaucoup, j'imagine, c'est pas facile de faire le tri. Mais allez, une.
Une, ça serait le Rwanda. C'est un pays qui m'a beaucoup touchée. Mm-hmm. Et je ne suis pas allée tout de suite après génocide en avril 1994. Moi, j'ai pu y aller avec Handicap International, qu'on appelle maintenant Humanité et Inclusion. Mm-hmm. H-I, et c'était en 2000. Et je coordonnais des programmes santé. Et donc, à l'époque, c'était orthopédie et kinésithérapie. Et c'est vrai que le fait de tenter avec les kinés nationaux et les orthopédies nationaux, parce que ça, c'était vraiment le corps de métier aussi d'handicap, et c'est toujours de vraiment travailler en partenariat avec les structures nationales et les ressources nationales, eh bien, monter des centres d'orthopédie et voir ces enfants, parce que bon, les mines antipersonnelles avaient quand même été pas mal dans le pays. Et aussi après avec la guerre avec le Congo, la RDC là au niveau du Kivu, c'est vrai que ces enfants avec qui leur manquaient des membres et essayer de garder de pas pleurer concrètement, de pas se lâcher, de pas se laisser aller, ces enfants quand ils repartaient d'un centre orthopédique avec une prothèse et ça lui permettait d'aller à l'école, ça c'était une victoire, vous voyez, moi c'était ça, c'était très touchant et c'était pas forcément un merci, mais rien qu'un sourire, ça donnait...
ça donnait un sens vraiment à ton action, même si sa légitimité n'est pas approuvée, ça a renforcé cette dimension.
De sentir utile, rien que par un sourire, parce que parfois, ou dans les réfugiés aussi, où il y en avait, et c'est vrai que parfois ils sont bas les pauvres, ils sont en détresse telle qu'ils ne vont pas dire merci, mais rien qu'un sourire.
Oui, ça se voit dans un regard, tout simplement.
Le regard suffit, il n'y a plus de communication verbale, là c'est juste par les gestes et les regards, on comprend et on se comprend, et ça c'est magnifique, quoi.
Merci pour ce bel exemple, Anne-Sophie. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques instants. Merci Anne-Sophie, à tout de suite. Looking at yourself in the mirror, baby, telling yourself to be up this morning, holding in your hand another mirror, baby, one or two lines for confidence, pretty little girls climb to the top, her aging takes her. Thank you. Bien, Sophie, on se retrouve pour cette dernière partie d'émission. Et après cette pause musicale. Alors, non pas que le sujet soit déprimant, bien au contraire, puisque la mission humanitaire, l'action humanitaire si on fait simple, est là pour aider les gens. Mais voilà, pour alléger un petit peu l'échange, est-ce que tu aurais, dans le cadre de ton parcours, de ton expérience, une anecdote à nous raconter un peu décalée, ou en tout cas qui a été surprenante?
Oui, tout à fait. Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y en avait une qui était particulièrement marquante et puis qui montre bien les représentations de l'action humanitaire dans le type de l'intervention, des acteurs, parce que j'étais en chef de délégation pour la Croix-Rouge française en Mauritanie pendant 2 ans. Et donc calme, situation calme, développement, en partenariat avec le Croissant Rouge mauritanien. Donc on était dans leur véhicule, la Croix-Rouge française n'apparaissait pas, ça c'est le mandat du mouvement Croix-Rouge et Croissant Rouge. Et lorsque on avait les checkpoints avec des militaires, ils n'étaient pas contents parce que le logo du CICR qu'on mettait, enfin CICR et du mouvement Croix-Rouge, c'est une arme qui est barrée. C'est-à-dire, voilà, parce que le mandat, dans les véhicules Croix-Rouge, on n'a pas le droit de prendre des personnes avec des armes.
Armées, d'accord.
On avait ce petit logo. Et donc, les militaires n'étaient pas du tout contents parce qu'ils disaient « Ah, vous n'aimez pas les militaires. » Alors que le chauffeur qu'on avait, évidemment, qui est un vecteur magnifique de la diplomatie humanitaire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils expliquent ce qu'il en est, complètement dans le moule. Et donc, il explique la signification du logo. Et donc, voilà. Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais en 2002, et il y avait la 2002-2003, et il y avait la guerre en Irak. Et il y a eu un positionnement de la France et des Nations Unies, comme quoi on était pour la paix, on ne voulait pas la guerre. Et là, tout d'un coup, ce logo, il a pris une dimension complètement différente. C'est qu'après les militaires, ils étaient très très contents de voir ce logo, parce que là, c'était la France, enfin, pardon, le mouvement Croix-Rouge, mais bon, ils savaient que j'étais un peu française, que je parlais français, puis on avait échangé avant, parce qu'à force de les voir, on échange. Et donc, ils étaient heureux de voir ce logo, parce qu'après, on était contre la guerre, on était pour la paix. Et ça a eu un retentissement jusqu'à l'achat d'une casserole pour essayer de négocier les salamalek typiques et obligatoires pour marchander, pour acheter une casserole, baisser les prix. Et jusqu'au moment où ils ont compris que j'étais française, et ils me l'ont donné, parce qu'ils estimaient que la France était pour la paix. Et donc, voilà, ils ne voulaient pas me faire payer. Et ils me disaient « Vive Chirac, vive Platini !»
C'est vrai que c'est drôle parce que d'un positionnement diplomatique international extrêmement marquant dans l'histoire de la diplomatie et internationale et française, on en arrive à une histoire de casserole.
C'est assez drôle. Ce qui se passe en haut et dans les grosses sphères ont des impacts sur le terrain jusque dans les derniers détails.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Merci. Merci Anne-Sophie pour cette anecdote. Avant de conclure, peut-être deux dernières questions. Une question en forme de conseil. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer sur cette voie de l'humanitaire? Alors toi, tu as été, saisi par ce sujet à 8 ans en regardant des images, comme tu l'expliquais au début de notre entretien à la télévision. Voilà, il y en a peut-être beaucoup, et sans doute beaucoup de jeunes qui seraient intéressés de se lancer sur cette voie. Voilà, quels sont les conseils que tu pourrais donner, à la fois en termes de posture, d'approche personnelle par rapport à l'humanitaire, et puis en termes de formation, est-ce qu'il y a des formations type ou finalement comme tous les chemins mènent à Rome, est-ce que toutes les formations peuvent peut-être mener à un moment donné à avoir une carrière dans l'humanitaire?
Oui, il y a les deux niveaux dont tu parles. Il y a vraiment le niveau personnel et après le niveau profil. Qu'est-ce que le profil peut apporter à l'organisation qui va les recruter? Ce qu'il faut savoir, donc, c'est vraiment, moi je ne me fatigue pas de dire que dans humanitaire, il y a humain. Donc il faut vraiment l'humain, pour moi c'est avec un grand H, et avant et surtout par rapport aux ressources humaines, qu'elles soient bénévoles, volontaires ou salariées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire de l'humanitaire, il faut vraiment avoir ce côté humain qui paraît du bon sens, mais qui n'est pas forcément, parce que parfois on est dans des états de stress ou qu'on oublie, enfin qu'on oublie, qu'on n'est pas, voilà, qu'on est en état de choc. Donc il faut vraiment bien se sentir, faire preuve d'humilité, faire preuve d'engagement, d'empathie. Et l'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre en étant l'autre et pas en étant soi-même. Parce que souvent, ça, on l'oublie, cette deuxième partie de l'empathie, à mon sens. Et véritablement, et moi, ce que je propose, parce que je peux intervenir dans des formations, faites-vous un auto-SWOT, ce qu'on appelle le SWOT.
Le SWOT,
Weaknesses, opportunities as written. À vous-même, dire où en est mon engagement. Qu'est-ce qui va me plaire, quelles vont être mes faiblesses, mes points d'amélioration. Parce que ça aussi, il faut bien garder en tête qu'on a tous nos caractères, nos façons d'être, et prendre connaissance de vos limites. Les euros de bande dessinée, on n'en a pas besoin sur l'humanitaire. Voilà, sachez vos limites et avoir l'humilité de le dire et de tendre la main au siège des organisations qui vous emploient. Parce que depuis que j'ai commencé, ça s'est beaucoup professionnalisé. Et c'est tant mieux, quelque part.
Oui, bien sûr.
Parce que voilà, des personnes formées, engagées et en adéquation avec les interventions, surtout dans l'urgence. Il faut déclencher les personnes, les poules, les ressources humaines rapidement. Mais le côté humain, le savoir-être avec vous, avec votre équipe, dans l'organisation, auprès de vos interlocuteurs et des communautés, c'est essentiel. Plus vous serez en harmonie avec ce contexte, plus vous serez performant, parce qu'on vous le demande, et aussi plus vous serez épanoui et en accord avec vous-même, et ça fera sens. Parce que c'est ça, une mission, ça doit faire sens pour vous, et ça, c'est très important.
Peut-être une petite précision, Anne-Sophie, c'est aussi sur... la capacité d'encaissement quand tu es sur le terrain et que tu vois et que tu vis des choses pas drôles. Tu citais tout à l'heure le Rwanda avec des enfants qui ont malheureusement subi des blessures extrêmement graves. Est-ce qu'il faut aussi être un peu blindé, si tu me permets l'expression, est-ce que dans le cadre, alors soit de formation, mais peut-être plus à partir du moment où on est intégré à une structure, est-ce qu'il y a une préparation psychologique, mentale, avant de partir, et est-ce qu'il y a un débrief éventuellement qui peut être fait au retour ?
Oui. Effectivement, on est face à des situations qui peuvent être extrêmement violentes.
Oui.
On dit. Et ça, on ne peut pas l'anticiper. Une guerre nous tombe dessus, ou des conflits, moi, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, voilà, ça nous tombe dessus. Alors après, il y a tout ce qui est système de sûreté et de sécurité des expatriés, surtout quand on dirige une mission comme j'ai été amenée à le faire. Il y a tout un processus de sécurité, de radio, le système de radio, de confinement. Et après, il y a les chefs de îlot avec les ambassades sur lesquelles on relève, ou le droit international, justement. Et puis après, voilà, il y a les cinq phases d'urgence pour être à l'infini d'être évacué. Il y a des briefings et des débriefings émotionnels, ce qu'on appelle. Alors, on utilise plus ce terme-là parce qu'il est un peu galvaudé et c'est vrai que c'est plus tellement ça. C'est vraiment une préparation au départ. Normalement, il y a ça. Et puis, quand on revient, on doit non seulement vous demander comment s'est passée la mission, les résultats atteints, pas atteints et pourquoi, mais aussi comment la personne va. Ouais. Et ça aussi, ça s'améliore. C'est de mieux en mieux.
D'accord.
Maintenant, ça reste un sujet compliqué, voire tabou, le bien-être des travailleurs humanitaires. Et c'est pour ça que moi, je me suis investie aussi d'une façon bénévole en étant ce qu'on appelle des pères aidants, des pères support, pour justement en groupe de pères, écouter les humanitaires avant, enfin, pendant et après, pour justement qu'il y ait un sas de débriefing de ce qui s'est passé, parce que c'est pas forcément le côté violent d'une situation, ça peut être tout simplement une mésentente avec la personne qui vit avec toi dans une guest house, parce que ça, on n'a pas tous des maisons individuelles, hein, on vit tous ensemble.
Ouais.
Ça, c'est le graal du chef de mission qui l'a, ça, sa maison, souvent. Mais les autres, tous ensemble. Surtout en urgence, c'est du 24-24. Et du 24-24, tout le temps. On est tout le temps en représentation. Et c'est vrai qu'on a cette cape de l'organisation pour laquelle on travaille. Donc c'est vrai que c'est psychologiquement, il faut pouvoir avoir des sas. Alors, il y a des psychologues qui normalement sont mis à disposition par les organisations. Il y a des appels, il y a aussi des... Voilà, on peut avoir accès à des psychologues, mais c'est vrai que ça, le bien-être des humanitaires, ça pose encore question, parce que là, le monde a tellement évolué. Les agressions sont tellement plus grandes. Moi, j'ai pas connu, tout ce qui est kidnapping, tout ce qui est prise d'otage, ça, on n'en avait pas, nous, à l'époque, il y a 30 ans. Il y en avait, mais pour moi, maintenant, c'est... Parce que les humanitaires sont des cibles. Les événements récents nous l'ont montré. Donc, c'est ça, c'est
Oui,
compliqué.
bien
Donc,
sûr.
mais les organisations se professionnalisent aussi. Et c'est vrai qu'il y a des groupes de psychologues, ça
Oui.
va. Ça, mais c'est vrai que... Puis l'association humanitaire, militaire, qui fait quoi ou comment, voilà, c'est... Et on est des cibles parce qu'on est des monnaies d'échange. Voilà, moi, quand je travaillais pour la
Eh bien,
Somalie,
évidemment, oui.
j'ai été briefée dans un communautaire... En cas de briefing, en cas de, et j'avais des preuves de vie à envoyer à ma famille en cas où on me kidnappe.
Oui, bien
C'est
sûr.
des process qui existent aussi. Donc, mais partir en... C'est pour ça que si les jeunes, vous voulez y aller, c'est formidable d'y aller, il faut du cœur, mais pas seulement. Mais partez en connaissance de cause. Posez des questions aux organisations qui veulent vous employer. Allez-y. Demandez tout et voyez si vous en êtes capable. Parce que, effectivement, voilà. Et puis après, bah, si ça arrive. Moi, je crois en l'homme et je me dis que vous puisez dans vos ressources et voilà, et demandez de l'aide. Humilité, voilà, vis-à-vis de vous-même.
Bon.
Prendre soin de vous, voilà, c'est essentiel. Parce
Merci,
que si vous
merci
allez
pour tous
bien,
ces
vous serez
conseils.
en mesure de bien faire votre taf et d'être bien avec les communautés. Voilà, c'est. Moi, je dis toujours le film La crise, là, hein, avec qui dit je vais pas bien, je me sens mal, je vais faire de l'humanitaire. Et Zabou. C'est une scène absolument incroyable et c'est ça. Non, 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 il
Oui,
faut
non,
pas.
il faut surtout pas,
Pour moi,
c'est pas dans ces moments-là qu'il
surtout
faut se
pas.
lancer là-dedans. Oui,
Non, non, non. Il faut faire des pauses aussi. Il faut faire des pauses entre les missions. Il faut se ressourcer, il faut se faire du bien. On n'est pas des héros de bande dessinée et voilà.
Non, mais c'est
Mais
extrêmement
on
important.
reçoit énormément. Bon, il y a des cas de crise, c'est violent, mais qu'est-ce
Oui,
que
non, mais c'est
c'est
ça, voilà. Après, c'est un bilan que tu
ça?
fais, et t'as deux colonnes, actif-passif, et c'est
C'est
ça
ça.
qui te consolide dans ta démarche. Écoute, Anne-Sophie, un grand, grand merci à la fois pour ces conseils, pour les personnes qui nous écoutent, et les jeunes en particulier qui souhaiteraient se lancer vers ces métiers. Merci pour cette interview. Alors, on a pour habitude de poser une toute dernière question à nos invités, en lien avec le nom de notre radio. C'est de savoir quelle girafe penses-tu être? Alors, cette question un peu curieuse, je te la pose. Est-ce que tu as un élément de réponse?
Eh bien, girafe, girafe caméléon, je dirais.
D'accord.
Girafe caméléon.
Est-ce que
Parce
ouais,
que,
est-ce que tu peux expliquer un
ouais,
peu?
dans mon processus, dans mes formations, enfin dans ma vie depuis longtemps, avec parce que l'humanitaire, voilà, c'est vie professionnelle et vie personnelle. On est 24-24, hein, dédié à ça. C'est-à-dire qu'il faut être caméléon. Il faut vraiment s'adapter, se fondre dans le contexte. C'est très enrichissant, ça met en valeur l'auditoire, qu'il soit institutionnel, qu'il soit estudiantin, qu'il soit université ou qu'il soit communauté, individu, population, femme, enfant, chef de village, chef religieux. Il faut vraiment apprendre à ça. Voilà, c'est de la diplomatie. Voilà, caméléon, se fondre dans le contexte. C'est-à-dire que pour l'avoir vécu, manger avec ses doigts, avec des Mauritaniens, un bon mouton qui vient de sortir parce que vous êtes l'hôte et qu'on vous... Voilà, donc être capable de ça et après être dans une ambassade
Oui.
et défendre, faire le plaidoyer voilà, du projet auprès des bailleurs, dont l'ambassade de France et tout est Quanti et d'autres chats et des Nations Unies. Voilà,
D'accord.
d'avoir un
Donc
costume et puis honorer les personnes qui nous reçoivent, que ce soit du ministère jusqu'à la population. Voilà. Donc être caméléon, se
bon,
fondre dans la
donc
masse, écouter.
un animal,
Et voilà.
un animal hybride, une girafe
C'est ça.
caméléon. Bon, bah écoute,
Girafe caméléon.
un grand, grand merci. Il ne me reste plus vraiment qu'à te remercier, Anne-Sophie, pour avoir accepté ce rendez-vous, prendre du temps. Je rappelle donc que je recevais Anne-Sophie Porcher, dont vous avez compris qu'elle a consacré toute sa carrière à l'action humanitaire, à l'humanitaire. Merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre donc de mon émission Autour d'eux sur ce sujet de l'humanitaire. On se retrouve pour un deuxième volet très bientôt où je laisserai cette fois-ci la parole, comme je vous le disais au début, à des étudiants de l'EM Normandie à la tête d'une association humanitaire, La Matitude, qui s'occupe de mettre en place des écoles, de construire des écoles au Pérou. Ils nous en parleront avec passion. Vous êtes sur Radio Girafe Normandie, je suis le F de Girafe, Frédéric. Vous nous retrouvez en multidiffusion sur Radio Girafe, évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur Deezer. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous et merci à toi, Anne-Sophie.
Merci beaucoup, à très bientôt.